بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعه الإسلام إن شاء الله ce soir on va compléter le hadith Jibril. Hadith Jibril qu'on a commencé depuis, subhanallah, plusieurs mois, tellement longtemps que je suis incapable de vous dire quand est-ce qu'on avait commencé. Un des hadiths les plus importants dans notre dîn. Un hadith qui est spécifique au dîn de l'islam, qu'on ne retrouvera jamais l'équivalent ni chez les Yahoud, ni chez les Nasara. Un hadith qui nous rappelle qu'à tout moment, quel que soit notre degré de foi, quelle que soit notre ancienneté dans la religion, dans la pratique de la religion, quelle que soit notre implication dans le dîn, on a toujours besoin d'apprendre, on a toujours besoin de renouveler son iman, renouveler sa foi. Voilà que notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est assis dans la masjid al-Nabawi, al-Madina al-Nabawiya, avec ses sahaba, en train de les enseigner la religion. 20 hommes habillés en blanc. Connaît l'histoire, une personne que un étranger, on est à Madina, c'est quand même un endroit restreint, tout le monde se connaît. Une personne qui n'est pas de la localité, une personne qui manifestement est un voyageur, mais ajib, il n'y a aucun signe de afar safar, de voyage. C'est pas une personne qui allait très tirée, fatiguée comme un voyageur. Il n'a pas non plus les vêtements sales après un mois passé dans le désert. C'est quelqu'un qui est beau, qui a les cheveux très noirs, la barbe très noire, les vêtements blancs, quelqu'un qui, mashallah, admirable, mais qui a un comportement déplaisant. Un comportement déplaisant, pourquoi? Parce qu'il va se faufiler entre les sahaba et s'asseoir directement devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et commencer une série de questions. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam accepte de répondre à ces questions, il ose dire « Sadaqta, tu as dit vrai ». Sahaba trouve ça irrespectueux. Comment est-ce qu'il peut se permettre de tenir un tel discours avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est presque comme si qu'il est en train de lui faire passer un examen, un test. Et les questions que cet homme, on va dire pour l'instant cet homme a demandé, ce n'étaient pas des questions hyper compliquées, ce n'étaient pas des questions techniques. Il n'a pas demandé au prophète alayhi salatu wa sallam des questions par exemple concernant l'héritage, ce qui est un masla difficile. Il n'a pas posé des questions concernant le talaq, le divorce ou des points de jurisprudence qui nécessitent une réponse extrêmement détaillée. Là, wallah, il a posé des questions basiques au prophète alayhi salat wa salam et qui étaient également destinées à l'ensemble des sahaba présents et qui est destiné à l'ensemble des musulmans jusqu'au qiyam. Un rappel, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète alayhi salat wa salam explique les 5 piliers de l'islam. Pas des questions concernant la foi. C'est quoi mal iman? Et le prophète alayhi salat wa salam explique les 6 piliers, les 6 bases de la foi. Ensuite, il pose une question concernant, ça c'est le paroxysme de la foi, le summum, l'objectif à atteindre. Qu'est-ce que le ihsan? Et le prophète alayhi salat wa salam va lui répondre c'est quoi le ihsan? Et enfin, il complète avec le qiyama. Quand aura lieu le qiyama? Et le prophète alayhi salat wa salam lui donne la réponse qu'il voulait entendre. Et ensuite, à chaque fois, qu'est-ce qu'il disait? Sadaqt, sadaqt, tu as dit vrai. Bonne, astaghfirullah, c'est presque comme on dirait, bonne réponse. Ou alors exact. Et à la fin, il s'en va. Le prophète alayhi salat wa salam le laisse partir. Il pose une question au sahaba. Savez-vous qui était cet homme? Le sahaba, il ne savait pas. En parenthèse, les savants disent également, aucun homme ne connaît l'invisible. Personne ne peut dire que moi j'ai une connaissance cachée, comme certains ils font croire, ils savent ce qu'il y a dans les cœurs, ainsi de suite. Abadan wallah. Nous ne sommes que des bachars, nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur de notre prochain, nous ne savons pas les péchés que notre prochain accomplit, on ne connaît pas l'état spirituel, l'état de iman de des personnes qui sont autour de nous. Tout ça c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Il y avait les plus grands sahaba parmi dans cette assemblée. Et le prophète alayhi salat wa salam répond, c'était Jibril. Il était venu yu'allimukum dinakum. Il est venu vous enseigner yu'allimukum. Il est venu vous enseigner votre religion. et à qui il est en train d'enseigner? À des gens qui se sont convertis hier avant-hier? Là, wallah. Il y a Abu Bakr al-Siddiq, il y a Umar ibn al-Khattab, il y a Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, il y a Abdullah ibn Mas'ud, il y a Abu Huraira, Abdurrahman ibn Auf, subhanallah. Les piliers de notre dîn, ils sont présents de cette assemblée, et la majorité d'entre eux, il y a une grande partie de Muhajirin et de Ansar aussi, mais ces Muhajirin qui sont de le dîn depuis 13 années à Mecca. 13 ans, ils ont préparé, ils ont consolidé le iman. Chers frères, wallahi l'azim, je jure par Allah que dans le contexte dans lequel nous habitons, nous vivons, et vu les circonstances, et vu les difficultés que la Ummah connaît depuis quelque temps, depuis longtemps, mais les difficultés qui ne vont aller que dans le mauvais sens, ça va s'accroître, wallah musta'an. La situation du croyant deviendra de plus en plus compliquée jusqu'au Qiyam. Ça fait partie des Ashrat al-Sa'a Sughra, des petits signes de Qiyamah, jusqu'à ce que ça devient insoutenable. Là déjà, certains se plaignent des conditions de l'islam, la montée de l'islamophobie. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on revient d'un voyage en métropole. Et wallah musta'an, c'était un voyage dans des circonstances particulières. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, que tout le monde connaît, wallah musta'an, devoir prendre l'avion 2 jours après pour aller à Paris, je vous assure que vous aurez préféré aller à Honolulu, aller à Moscou, aller à Montréal, mais pas là-bas, n'importe où sauf à Paris. Qaddar Allah. Allah a voulu que les choses se passent ainsi. Mais quand on est sur place, on voit la situation de nos frères et de nos sœurs musulmans. Le peu de moyens dont ils disposent, et notre frère Riyad qui habite à Lille, mashallah, et d'autres personnes parmi nous qui ont peut-être habité, étudié ou passé quelques temps en métropole, certainement, ils savent, et nous on a vu, la deuxième fois on voit le peu de moyens dont ils disposent, le peu d'outils qu'ils ont pour apprendre la religion, ben subhanallah, ils font qadr. Ils comprennent la valeur, et ils les embrassent de leurs bras, ils les prennent des deux mains, et ils remercient Allah Azza wa Jal, et ils en profitent au maximum. J'ai été dans une madrasa à Nadwi, qui est tenue par deux collègues, deux amis, certainement les gens que j'aime le plus de ce dunya pour Allah, et que cet amour soit réciproque, inshallah, Allah yajma'ana fil jannah, inshallah. J'ai été de leur école qu'ils ont, bi'idhnillah, fondée. Je sors du sujet, mais c'est important, parce qu'on parle du contexte dans lequel nous vivons, on parle de ces sahaba qui ont grandi à Mecca, et qui pendant 13 années ont forgé leur iman, leur foi, leur confiance en Allah. Et on a besoin de passer par la même étape parce que nous sommes en train de vivre des situations difficiles et ça va devenir de plus en plus compliqué jusqu'à la venue de Al-Mahdi. Et les versets qui ont été révélés à Mecca, wallahi, on en a grandement besoin. C'est comme si on refait un peu le cheminement. On est en train de vivre à une époque où on est affaibli. En apparence, notre iman est là, alhamdoulilah, mais il y a une oppression, un zulm qui est envahissant, un zulm qui devient de plus en plus apparent, qui ne se cache même plus, un zulm, c'est-à-dire une oppression, une injustice, qui à un moment donné ne se cache même plus. On casse du musulman, on peut brûler une mosquée, on peut insulter, on peut remettre en cause nos valeurs, ouvertement, wallah musta'an, sans que ces personnes aient besoin de se cacher, ni de se justifier au nom de ce qu'ils veulent bien faire entendre. Mais tant que c'est de notre sens, ça va. Mais si ça déborde dans d'autres sens, on verrouille tout de suite. Parce que quand on casse du musulman, c'est la grande liberté d'expression dans l'Amstan. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça a été prévu par Allah Rabbul Izza. Tout ça, c'est le tahdir. On va compléter Hadith Jibril. Il n'y a rien qui se passe sans que cela n'émane de la décision d'Allah, sans qu'Allah Rabbul Izza sache exactement ce qui est en train de se passer, sans qu'Allah Rabbul Izza ne l'ait déjà écrit dans la destinée de l'humanité. Donc rien ne se produit sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, nous en tant que bachar, en tant qu'être humain, avec nos qualités, mais nos défauts, avec nos forces, mais nos faiblesses, avec nos espoirs, mais beaucoup de craintes aussi. On a besoin de se frayer un chemin de ces ahwal, de ces situations difficiles, pour qu'on trouve le juste équilibre entre ce qui nous entoure, entre notre implication dans la société, en tant qu'employé, en tant qu'employeur,
en tant que citoyen, en tant que médecin, en tant qu'artisan, en tant que personne qui n'a pas encore de travail, mais un maillon de la société. En tant que père de famille, avec des enfants qui vont grandir avec ce genre de message, avec une liberté qui est, à mon sens, plus synonyme de libertinage que de liberté, Wallahu musta'an, où il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de haya, la notion de zina, d'adultère a disparu, la notion de fornication n'existe plus. Ça, si on parle de fornication ou d'adultère, on va dire que ça c'est du vieux français. Plus personne ne parle de ça. On parle d'émancipation sexuelle à des enfants qui sont en sixième, et ainsi de suite, Allah musta'an. Donc, trouver le juste équilibre entre ma vie de croyant, entre ma vie de citoyen français, mon implication dans la société comme maillon de la chaîne qui fait avancer les choses, en tant que papa, en tant que père de famille, Wallahi, on a besoin de trouver le juste équilibre. Et pour trouver ce juste équilibre, il est impossible qu'on se base uniquement sur nos acquis. On ne peut pas se baser sur notre histoire, notre culture, nos études, ce que nous avons appris. Parce que les choses vont tellement vite qu'on va être rapidement balayé. Notre conception de papa d'il y a 10 ans, c'est plus la conception de papa à notre époque. S'il y a 10 ans, ou alors même vous quand vous étiez petit, quand nous on était enfants, on savait comment nos parents nous cadraient, nous surveillaient, pour qu'on ne fasse pas de bêtises, ben sachez qu'il y a besoin de MAJ, on appelle des MAJ, de mise à jour, de beaucoup de mise à jour. C'est-à-dire votre éducation, il est encore en système Windows 84. On a besoin de l'adapter 2014, 2015, c'est plus du tout pareil. Si ce fut une époque où on pouvait protéger les yeux, le regard de nos enfants pour que le regard ne tombe pas sur ce qui est haram, il suffisait de verrouiller la télé, il faut qu'à minuit tous les enfants soient au lit. Un exemple, d'accord ? Pour qu'ils ne voient pas des choses obscènes à la télé. Maintenant, c'est plus pareil, hein ? Dans leur poche, ils peuvent voir ce qu'ils veulent. Tout ce qu'il y a de plus horrible, de plus dénudé, de plus obscène, ils peuvent le voir n'importe quand. Ils vont dans les toilettes, ils téléchargent un truc sur YouTube, ils regardent, tu n'y vois rien, peut-être tu ne comprends même pas toi-même. Allah musta'an. Il n'y a pas besoin d'aller loin, les panneaux publicitaires sont parlants. Allah musta'an. Et là, on parle entre guillemets de droit de la femme. Quand on met une femme moitié nue pour vendre une boîte de petits pois de scie, ou pour vendre un pot de peinture, et puis on me parlera de respect, de l'éthique, et ainsi de suite. Alhamdulillah, ce que nous avons dans notre dîn en termes de ihtiram, de respect, alhamdulillah, yakfina. Également, il n'y a pas besoin d'aller très loin ou de veiller très tard dans ce que nos enfants regardent quotidien à la télé, à 20h, à 19h, lorsque vous voyez un film qui est écrit enfant ou moins de 10 ans, sachez que à votre époque, c'était l'équivalent de moins de 16 ans, où il va voir des scènes de nu, mais il considère que tout ça... Bref, pour qu'on comprenne que mon rôle de papa... Ma conception de père de famille, on doit l'adapter par rapport aux façades, le terme arabe, par rapport à la corruption des mœurs, par rapport à la dégradation dans la conception des choses. Ce qui a été prévu également par le prophète, alayhi salatu wasalam. Et pour qu'on arrive à trouver ce juste équilibre, et qu'on ne soit pas en porte-à-faux, en permanence avec les gens, et qu'on ne finisse pas par douter de nous-mêmes, qu'on ne finisse pas par baisser les bras parfois, ou perdre confiance en Allah, parce que quand quelqu'un veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, assurément il y aura des épreuves. حَسِبَ النَّاسُ وَأَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. On ne peut pas dire qu'on va se rapprocher d'Allah, on va exceller dans la foi sans être éprouvé. Assurément on sera éprouvé. Et on est dans une époque où les épreuves sont partout. Mais jamais il y a une époque où on a eu autant besoin des ayats makki, des versets mekwa, où notre prophète alayhi salatu wa salam vivait des situations terribles à Makkatul Mukarrama, et Allah Rabbul Izzah révélait des versets qui avaient pour but de former la foi, former la confiance en Allah, élever la spiritualité à travers des textes, à travers des histoires, à travers des récits, à travers des conseils, à travers l'invitation vers la méditation sur la création d'Allah. Et parmi ces histoires, subhanallah, une des plus belles racontées du Coran, lorsqu'on analyse l'histoire de Moussa alayhi salam, les leçons de foi, de sagesse, de confiance en Allah, les ibrah, comment on pourrait dire les ibrah, on pourrait dire également les leçons où on voit que l'injustice, les personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui font preuve d'injustice, ben à un moment donné, subhanallah, ils doivent se plier aux ordres d'Allah, et qu'en finalité, Allah, Rabbul Izzah, vient en aide à celui qui croit en lui, qui a la foi, qui a la crainte d'Allah, et qui accomplit de bonnes actions. Et cette promesse qu'Allah, Rabbul Izzah, a fait à Moussa, alayhi salam, et que cette promesse qui s'est réalisé durant sa prophétie, où il a eu l'aide d'Allah, il a eu la protection d'Allah, et il a vu la nusrat d'Allah Azza wa Jal, c'était là une bichara, une bonne nouvelle, une tasliya, un encouragement pour notre prophète alayhi salatu wassalam, qui vivait ces situations difficiles. Et nous, nous avons grandement besoin de ces histoires et de ces textes qui renforcent la foi, qui encouragent le croyant, qui rappellent le Jannah, qui met en garde contre le Jahannam, qui rappelle le croyant que ce dunya n'est pas une finalité, n'est pas un aboutissement, quelles que soient les difficultés qu'un abd, qu'un serviteur d'Allah va connaître de ce monde, à un moment donné, il y a un retour auprès d'Allah, il y a une justice auprès d'Allah, que la justice, ce n'est pas la justice des êtres humains. Et que plus on supporte pour Allah, on fait preuve de patience, on accepte les épreuves, on se fait parfois insulter, humilier, dans notre dîn, les gens peuvent dire des choses et qu'on fait preuve de patience, on se dit que ce sont là des mujahada, des sacrifices pour Allah Azza wa Jal, la récompense sera encore plus grande dans l'au-delà. Lorsqu'on analyse Was-samaa'i dhaati al-buruj, qui est pour moi un des sourats les plus parlants, où l'injustice est poussée à son summum avec l'histoire d'Ashabul Ukhdud, qui a, parce qu'ils avaient wama naqamu minhum, à chaque fois on répète ça, mais il faut qu'à un moment donné on intègre ça. Illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Le sort d'Ashabul Ukhdud dépasse de loin tout ce que nous pouvons vivre et imaginer, et tout ce que cette Ummah pourra connaître jusqu'à la venue de, jusqu'à le retour de Al-Mahdi, en termes de difficultés et d'oppression de la religion. On creusait des fossés, on allumait un feu ardent, on jetait les gens qui osaient dire La ilaha illallah, qui osaient affirmer qu'ils ne croient qu'à un Dieu unique, Allah Rabbul Izzah, qui a affirmé le Tawhid. Et dans cette surah, on explique la souffrance, on explique comment les gens qui étaient à l'origine de cette souffrance assistaient comme spectateurs, qu'oud, assis, ils observaient les croyants mourir, hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés. Mais juste après, il y a l'annonce de la bonne nouvelle du paradis pour celui qui accomplit de bonnes œuvres et pour celui qui a la foi et qui accomplit de bonnes œuvres. Et il y a l'annonce de la punition d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui ont causé du tort aux croyants et aux croyantes. Cette sourate, à mon sens, peut résumer tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'il y a de pire au sein de la Oumma, de le monde musulman à notre époque. On a grandement besoin de ces leçons de foi à travers les versets, à travers l'histoire des prophètes. Et là, cette leçon, elle est magnifique, parce que ces sahaba, ils ont tout appris pendant 13 années à Makkah. Le iman est forgé et au top, au summum. Je vous donne un exemple. Lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et là on sort complètement du sujet, mais alhamdulillah, était amir al-mu'minin, les musulmans étaient en difficulté, l'armée musulmane était en difficulté dans une région. Ça fait longtemps que j'ai lu ce texte, j'ai plus en tête le nom, le lieu géographique. Le amir de la localité, il dit, oh amir al-mu'minin, Omar ibn al-Khattab, nous sommes en difficulté, les ennemis prennent le dessus et je crains qu'on n'arrive pas à tenir. Envoie-nous 4000 personnes. On a besoin de 4000 personnes pour renforcer l'armée des musulmans. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu va envoyer 4 personnes. Le chef de l'armée des musulmans, il reçoit ces 4 grands sahaba, mais il écrit Amir al-Mu'minin, il reçoit ces gens, il reçoit un courrier. Il est content, Omar, j'ai plus les noms en tête, il faut que je relis ça. Ça, subhanallah, c'est notre professeur de tarikh islam et d'histoire de l'islam qui nous avait enseigné ça, Ajib. Il dit que le Amir, il est content, il reçoit 4 grands sahaba, grand honneur de recevoir de telles, entre guillemets, des pointures au sein de son armée. Mais en même temps, il s'attendait à voir 4000 personnes sur des chevaux, avec des armures, casques, boucliers, épées et lances, c'est-à-dire des combattants. Sahaba mène un courrier de Amir al-Mu'minin, de Omar ibn al-Khattab, à l'attention de ce chef, du Amir, de l'armée des musulmans. Il dit que je t'ai envoyé 4 personnes dont la foi est supérieure à 4000 personnes. Ça, c'était Sahaba. Parce que quoi ? Ils ont eu tarbiya makkiya. Ils ont eu l'éducation spirituelle de Mecca. Leur foi a été forgée dans les moments les plus durs de l'islam. Donc, ces gens, je t'envoie quatre lumières. Je ne t'envoie pas quatre hommes. Je t'envoie quatre nours, quatre personnes qui portent une foi, des gens qui ont côtoyé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ce iman, ils déplacent des montagnes. Il n'y a rien qui résiste devant eux. Ce n'est pas la force physique que tu as besoin. Tu as besoin de personnes qui ont tawakkal ala Allah, qui savent faire confiance en Allah azza wa jal. Et c'est exactement ça qu'on a besoin. On a besoin des récits, on a besoin d'apprendre notre dîn, mais par le biais des versets qui vont renforcer notre foi en Allah. Et de ce fait, quel que soit les discours que nous allons entendre, quelles que soient les choses que nous verrons, on aura toujours une relation dans notre cœur avec Allah, on s'en remet à Allah, et comme les prophètes, dans les moments où ils étaient le plus éprouvés, qu'est-ce qu'ils disaient ? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Et ni'mal wakil, alhamdulillah, s'appuyer sur Allah, c'est s'appuyer, s'en remettre à Allah, il n'y a rien de mieux que s'en remettre à notre Créateur. À notre époque, on a besoin de travailler le iman. On n'a pas forcément, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, on n'a pas forcément besoin de multiplier les bonnes œuvres. On n'a pas besoin d'augmenter en, sur le plan quantitatif. On a besoin d'améliorer la qualité. Si on complète Hadith Jubayr aujourd'hui, il y avait au menu, au programme, un autre Hadith qui est paradoxalement juste après Hadith Jubril, qui ne fait même pas une ligne, qui est composé de trois mini-phrases avec une virgule qui les sépare. Hadith qui se trouve dans Arba'in Nawawiya, magnifique, où on comprend que, subhanallah, il suffit que chaque croyant travaille ses actions du quotidien, il arrive à développer la taqwa par le biais des actions qu'il fait normalement tous les jours, et il va voir le degré de iman qu'il va atteindre. Et ça nous fait réaliser, si on peut le faire aujourd'hui, sur la semaine prochaine, ça nous fait réaliser qu'on a besoin de progresser dans le dîn. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui se suffit de son niveau de pratique de la religion. Qui se dit que khalas, je pratique, c'est bon. C'est presque comme si que je dis que moi j'ai le visa du Jannah. C'est acquis. La wallah. Si une personne dans ce dunya, mis à part les 10 qui ont eu la bonne nouvelle du paradis, savait qu'il allait dans le Jannah, khalas, il n'y a plus besoin, de rien. Même Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui faisait partie des Ashara, des 10 personnes qui ont reçu la Bishara, la bonne nouvelle du paradis, il disait que si je savais qu'Allah Azza wa Jal avait accepté un seul de mes sijda, je serais entièrement satisfait. Parce qu'Allah Rabbul Izzah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah accepte des pieux. Donc il dit que si je savais qu'Allah avait accepté un sijda, une prosternation, alhamdulillah, je suis satisfait. Et nous, on fait quasiment rien. On fait le strict minimum, mais avec aucune qualité, Wallah Musta'an. Mais on est persuadé que tout est parfait et qu'on est en train, jour après jour, on gravit les échelons jusqu'au Jannatul Firdaus. Mais on en est extrêmement loin. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah pardonne nos manquements. Mais quand un croyant se rend compte qu'il a besoin de travailler sa foi, il a besoin d'avancer, il a besoin de progresser tous les jours, c'est là qu'il va réellement avancer. Et c'est là qu'il va se mettre à invoquer Allah. Lever les mains, demander à Allah, Rabbul Izzat, Tawfiq, Wassadad, Wal-Istiqama, Ihdina Sirat al-Mustaqim, demander à Allah de l'aide pour avancer dans la religion, pour apprendre, pour mieux pratiquer. Et Allah, Rabbul Izzat, lui donnera Tawfiq. Et quand il pourra le faire, Allah, Azza wa Jal, qui a ouvert pour lui une porte d'acceptation, va observer qu'est-ce qu'il fait de ce ni'ma. Est-ce qu'il le prend ? Où il fait preuve d'insouciance, il le délaisse. Et si la personne accepte ce présent, il a eu tawfiq de faire une bonne action, il le fait avec assiduité, il fait des efforts pour se rapprocher d'Allah. Il va commencer à être assidu à ses 5 prières. Il va commencer à faire la prière de la nuit. Il va commencer à jeûner le 13, 14, 15. À jeûner le lundi et le jeudi. Il va commencer à venir en aide à son prochain, même si lui-même il n'a pas beaucoup d'argent, mais essayez. Il va faire un pas vers Allah. Et celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait 2 pas vers lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui. Harwala, Allah vient vers lui en courant. Allah va l'accepter, va lui donner la possibilité d'avancer. Chers frères, on a exactement besoin de ça. Et ces sahaba qui ont eu cette éducation, malgré le niveau de iman, ils reçoivent un rappel d'Allah Rabbul Izzah par l'intermédiaire du meilleur des anges, Jibril alayhi salam, et par l'intermédiaire du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'attention des meilleurs des hommes après les prophètes, as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, pour qu'ils comprennent qu'à chaque moment de notre vie, on a besoin de travailler nos piliers de l'islam. Personne ne peut se permettre de se suffire de la qualité de ses salats. On doit travailler notre salat, qu'Allah nous accepte pour le faire. Chacun d'entre nous, on a grandement besoin de progresser dans nos 6 arcanes de l'iman, dans nos 6 branches de la foi. Et pour cela, on a besoin d'apprendre, d'étudier avec des chouyours, personnellement, par le biais de lecture, et demander à Allah de donner la possibilité de comprendre et de mettre en pratique pour avancer dans notre dîn. Donc, la dernière étape de ce hadith, et il faut absolument qu'on complète ce soir, on avait, juste avant la trêve, avant les vacances, on avait parlé de la 6e branche de la foi, « وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » On avait expliqué que ça fait partie des plus hauts degrés de la foi que de comprendre, de réaliser parfaitement le taqdir, le destin. On avait expliqué les différents piliers, c'est prendre conscience qu'Allah, « عَلِمٌ بِكُلِّ إِنَّ اللَّهَ عَلِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ » qu'Allah, il connaît tout. Et on avait cité des versets qui prouvent qu'il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans qu'Allah Rabbul Izzah ne le sache. Même une feuille, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Une feuille qui tombe d'un arbre, subhanallah, c'est Allah Rabbul Izzah sait exactement ce qui se passe. Et on avait déduit que si on est conscient qu'Allah sait tout ce qui se passe, donc ne sois pas triste. Ce qui te chagrine, ce qui pèse sur ton cœur, ton épreuve à toi, Allah le sait parfaitement. Parce que c'est lui qui te l'a prédestiné. Également, on avait vu qu'il faut réaliser qu'Allah Rabbul Izzah a écrit tout ce qui doit se passer jusqu'au Qiyam. Donc, ne sois pas angoissé. Ce qui t'arrive, c'est là la décision d'Allah Azza wa Jal. Il ne t'arrivera pas pire que ce qui est écrit de ton destin. Et pas besoin de bouger de tous les sens. Il ne t'arrivera pas mieux que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Et confiance en lui. Fais les actions, les intermédiaires, fais les efforts, et en finalité, on n'aura que ce qui a été prédestiné, ce qui est écrit dans notre taqdir. On a vu également que parmi les piliers de la foi sur le destin, avoir yaqin sur mashi'atullah, la volonté d'Allah. Rien de ce dunya ne se passe sans la volonté d'Allah. Même s'il y a des choses qui nous paraissent difficiles, les épreuves également émanent de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et qu'on soit donc maintenant rassuré. On avait dit tout à l'heure, ne soyez pas angoissés, n'ayez pas peur. Maintenant, qu'on soit rassuré, que même s'il nous arrive quelque chose de difficile, une épreuve, c'est Allah Rabbul Izzah qui l'a décidé. Et Allah ne décrète jamais quelque chose de néfaste pour son serviteur. Quand Allah décrète quelque chose de bien, de positif, Alhamdulillah, on remercie Allah. Quand Allah décrète quelque chose de difficile, c'est une épreuve. On fait preuve de patience, on s'en remet à Allah, et il y a là également un bien pour nous. Et ainsi de suite, on avait développé les branches de Al-Iman, Bil-Qada et Wal-Qad. On avait expliqué que celui qui développe la foi sur le destin, il va goûter au halawatul iman, la douceur de la foi. Il va goûter au plus haut degré de la foi, et quelles que soient les situations qu'il va vivre, on avait l'histoire de Urwa ibn Zubayr par exemple, qui avait perdu un fils et qui avait fait un accident, qui a été amputé d'une jambe. Toutes ces histoires, on avait raconté. On a vu que les gens qui étaient les plus éprouvés, à partir du moment où ils avaient la foi sur le destin, ils s'en remettaient à Allah et ils avaient le cœur toujours apaisé. Ils avaient le cœur toujours tranquille, jamais angoissé, jamais peur, toujours confiance en Allah. Moussa alayhi salam, après la phase de tarbiyah, d'éducation, l'éducation par le biais du asa, par le biais du bâton, il faut saisir ce bâton qui est un serpent, il faut le saisir, dépasser sa peur, dépasse ce que tu vois, dépasse ce que tu entends, dépasse ce que ton cœur te dit. Il analyse, il décrit, il dit ça c'est un danger, ne le touche pas. Réaction humaine. Allah dit khudha wala qala khudha wala takhaf. Sanu'iduha siratah al ula. Prends et n'aie pas peur. Entre le fait d'écouter l'ordre d'Allah qui lui dit khudha et ce qu'il voit, ce qu'il entend et la manifestation de ce serpent qui était gigantesque et effrayant, c'est une éducation de l'âme pour que le croyant arrive à dépasser ce qu'il perçoit, aller au-delà de ses 5 sens, c'est-à-dire dépasser sa conception du dunya pour s'accrocher uniquement à la corde invisible d'Allah Azza wa Jalla. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Ce rêve, on le voit ou on ne le voit pas? On ne le voit pas. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. S'accroche à la corde d'Allah. C'est Kitabullah wa Sunnah. Même si on voit le monde entier qui nous dit que non, on ne fait pas ça, on fait comme ça. On dit que ça c'est ce qu'Allah Rabbul Izza a décrété. Ça c'est, Allah dit que le Jannah s'obtient de cette façon. Les gens te disent, vas-y, fais telle chose. C'est la notion d'interdit, c'est archaïque. L'adultère n'est plus interdit, l'alcool n'est plus interdit, sortir en boîte de nuit, avoir une copine, tout ça c'est des choses qui font partie de notre identité, de notre culture. On se dit que non, si Allah Rabbul Izza me l'interdit, je m'accroche à ce qu'Allah Azza wa Jalla l'interdit, même si mes yeux m'attirent vers cette chose. Mes oreilles aimeraient écouter telle chose. Ma bouche aimerait goûter à tel mets, à telle chose, boire ce que mes amis boivent et on voit comment après ils ont l'air d'être heureux. Mon cœur penche vers ces gens qui vont dans des endroits haram, mais je dépasse tout ce que mon corps et mon esprit me dit pour écouter mon iman et me raccrocher. Ça, c'est une éducation ajib. Et lorsque Moussa alayhi salam a franchi cette étape avec succès, parce qu'il devait franchir avec succès, parce qu'il était choisi par Allah, parce qu'il avait les qualités, quand il est devant Pharaon, Moussa n'a plus peur. Quand il est devant 70 Sahara, 70 sorciers, et c'est pas, comme on disait dans le séminaire, on l'a fait en France, c'est pas Harry Potter, c'est pas le royaume enchanté, c'est pas, je sais pas, le nom de ces bêtises-là, la coupe magique, c'est pas tout ça, c'est Sahara, les grands sorciers d'Égypte, c'est-à-dire les meilleurs sorciers du monde, d'eux. Jamais la sorcellerie n'a atteint un tel degré qu'à l'époque de Pharaon. C'est pour ça que les miracles de Moussa alayhi salam défiaient la sorcellerie des champions de sorcellerie. C'était la ligue des champions. Pharaon a appelé le Barça, il a appelé Milan, il a appelé Manchester, il a appelé Bayern de Munich. Il a appelé les meilleurs des sorciers d'Égypte qui ont été formés sur Ibn Kathir depuis leur enfance. Ils maîtrisaient le sihr comme personne au monde. Et Moussa alayhi salam a eu un entraînement, un seul. Quand Allah lui dit, prends ce bâton, n'aie pas peur. Il n'y a pas eu un grand discours, hein? N'aie pas peur. C'est Allah qui contrôle tout. Et Moussa voit, il réalise que, ouais, subhanallah, tout est dans les mains d'Allah. Il a eu un entraînement qui a duré quelques minutes. Ensuite, il a montré à Pharaon. Pharaon, orgueilleux, fier, il n'a pas voulu accepter, ça c'est une autre histoire. Et maintenant, Moussa alayhi salam va affronter Pharaon, les ministres d'Égypte, les chefs de tribu, la cour de Pharaon qui est là, présent pour ce jour de fête, c'est un jour de Eid. Un jour de Eid, le Eid à eux, je veux dire, le fête à eux, et 70 sorciers qui sont là, qui sont affamés de pouvoir et d'argent. Dès qu'ils arrivent près de Pharaon, قالوا, le verset ne me revient pas, a inna lana la ajran, in kunna nahnul ghalibin. Tu nous donnes quoi, en gros, hein? On a quoi financièrement? Quel avantage? De l'argent? Des maisons? Tu nous donnes tel village ou telle ville, on devient chef? Ils ont besoin de retour matériel. Pharaon promet tout ce qu'ils veulent. Ils auront telle chose. Ils sont motivés par l'argent, le cœur noirci par la fausseté du sihr, corrompu par l'argent, et ils ont en face d'eux Nabiullah. Et Moussa alayhi salam, il n'a plus peur. Pourquoi il n'a plus peur? Parce que son iman est forgé. Allah l'a éduqué. Et donc il fait le miracle. Et tellement il maîtrise les choses, celui qui a peur, il subit. Moussa ne subit pas. C'est lui qui décide. Il a dit, qui c'est qui commence? Il dit, c'est vous qui commencez. C'est vraiment le gars, c'est la personne qui maîtrise la situation. C'est pas qu'il reste bouche bée devant 70 personnes, devant des centaines de personnes, peut-être des milliers, il n'y a pas de chiffre. Il dit, le verset ne me revient pas. Qala alqu, jetez vos bâtons. Faites votre sihr en premier, on verra. 70 contre 1. Ils jettent leurs bâtons. Il y a toute la vallée remplie de bâtons qui bougent, de cordes comme des serpents. Les gens sont hypnotisés. Et Moussa a peur. Mais il n'a pas peur d'eux, hein. Il a peur que les gens finissent par croire que c'est la vérité. Allah dit, ne t'inquiète pas. C'est toi, innaka antal a'la. C'est toi qui seras au-dessus. Il suffit qu'Allah lui dise « Inna kantal a'la » Khalas. Ce qu'il voit là à ce moment, wadi. Un wadi, c'est comme une plaine. C'est même pas comme un terrain vague. C'est un endroit vaste, rempli de serpents qui est en train de bouger dans tous les sens. Et les gens sont effrayés, ils regardent et ils sont admiratifs. Pharaon qui jouit, il est content, il voit, ça y est, il va, ma cour va connaître que c'est moi qui a raison et que lui c'est un menteur. Moussa alayhi salam, il entend Allah Rabbul Izzah qui dit « Innaka antal a'la », il fait abstraction de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il ressent, de tous les retours négatifs des gens. Il jette son bâton et le miracle s'accomplit. Le serpent avale tout ce qu'il y a, comme bâton, comme corde, et il voit la nusrat d'Allah. L'aide d'Allah ne se manifeste pas forcément par des choses violentes, non. L'aide d'Allah s'est manifestée comment? Par la foi. Ces 70 sorciers qui avaient fait un pacte déjà satanique, mais en plus un pacte avec le pire tyran de l'histoire des civilisations, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Il y a plusieurs versets, سُجَّدَ سَاجِدِينَ aussi. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Un revers pour Pharaon. Il s'était basé sur ces personnes. Ces personnes vont l'humilier devant tout le monde. Ils vont se prosterner devant Allah. Il dit, nous avons iman en Allah, le Seigneur de Moïse et de Aaron. Et de Haroun, Rabbi Moussa wa Haroun. Moussa n'a plus peur parce qu'il a confiance en Allah. Younous alayhi salam, de le ventre de la baleine, n'a pas peur parce qu'il a confiance en Allah. Younous Ibrahim alayhi salam, qui est jeté, qui est catapulté. Il n'a pas été jeté, il a été catapulté. Pourquoi? Parce que le feu que ces gens ont préparé était tellement ardent qu'aucun être humain ne pouvait s'en approcher pour le mettre dedans. Ils étaient pris un peu à leur propre piège. Comment jeter Ibrahim dedans? On ne peut même pas s'en approcher. Ils l'ont mis, Khalilullah, l'ami intime d'Allah, ils l'ont mis dans une catapulte. Regardez l'humiliation. Ils le jetaient comme on jette une pierre. Et quand Ibrahim alayhi salam est projeté dans le ciel, il va toucher les flammes, il n'a pas peur. L'ange vient et dit, est-ce que je te viens en aide? Il dit, si c'est toi qui me proposes de l'aide, sache que je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai mon Allah qui est au-dessus de moi. J'ai mon Allah qui me protège. Ajib, ça c'est le summum d'Ibtila. Il a quelques secondes d'entrer dans un feu, peut-être jamais allumé par une civilisation, un feu aussi ardent. Mais il sait qu'Allah le protège. Il n'a pas peur. Et ensuite, l'aide d'Allah est venue, qu'on a dit, « Narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim », vous connaissez l'histoire. Mais tout ça, c'est pour qu'on comprenne que les Anbiya alayhim salat wa salam, ensuite, les Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ils ont eu une foi, un iman, une confiance en Allah parfaite, formée. Et de cette façon, ils n'ont jamais eu peur. Et ils ont pu affronter toutes les situations de leur vie. Et à notre époque, on a besoin de renforcer notre foi. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc oui, la foi sur le destin nous apporte cette tranquillité du cœur. Et d'une manière générale, chaque pilier de la foi va nous renforcer. Quelqu'un qui développe sa foi en Allah, assurément il va développer, il va apprendre les noms et les qualités, les attributs de l'asma wa sifat. Il n'y a rien de mieux pour la concentration, la dévotion dans les ibadah, que de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Celui qui travaille, qui apprend iman il malaika, il va développer un degré de taqwa qui est tel parce qu'il a pris conscience que les anges sont là, écrivent les actions, les bonnes comme les mauvaises. Comment magnifique, gigantesque est le pouvoir, le mulk, la royauté d'Allah au-dessus des cieux, et ainsi de suite. Chaque branche de la foi, mes chers frères en islam, nous permet d'élever notre iman en Allah et d'atteindre les plus hauts degrés de foi. C'est ce que les sahaba avaient travaillé. Ce n'était pas forcément beaucoup d'actions. C'était la qualité des actions et la qualité, la spiritualité, leur relation avec Allah Azza wa Jal. Et donc, pour conclure, en commentaire, le commentaire hadith dit que celui qui va développer la foi sur le destin, il aura le cœur toujours apaisé. Parce que quand il lui arrivera quelque chose de difficile, il s'en remettra à Allah. Une maladie, une épreuve, la perte de proches, un incendie qu'Allah protège, la perte de biens, il s'en remet à Allah. Quand il arrive quelque chose de positif, il remercie Allah. Jamais il va faire preuve de fierté. Quelqu'un qui a réussi, il ne va pas se dire que j'ai réussi parce que j'ai fait des études, parce que mon père, parce que je suis issu d'une telle famille, parce que je porte tel nom. Abadan, ya akhi, reviens vers les sourates qui te rappellent que tu étais une goutte de sperme impure. Cette goutte de sperme qui touche un vêtement, tu ne peux pas prier avec, tu dois laver jusqu'à ce que le vêtement devienne pur. À l'origine, on est impur. Et on retourne sous la terre, nos ossements, la chair, la peau va, subhanallah, va se déchiqueter, on redeviendra poussière. Il n'y a pas de quoi être fier. Celui qui développe la foi sur le destin, non seulement dans les épreuves fera preuve de courage, de patience en remettre à Allah, mais dans les moments d'ouverture, il saura s'en remettre à Allah également. Et ne jamais être fier, et ne jamais se dire que c'est moi qui ai réussi, ne pas faire par exemple l'erreur de Qarun, qui faisait partie du peuple dans lequel Moussa al-Sam avait été envoyé, et qui se disait que j'ai cet argent, « Innama uti, qala innama uti lituhu ala ilmin indi » À moi ça, à moi la gagner. Ça c'est mon travail, c'est l'œuvre, c'est le fruit de mon travail, de mes efforts, « na'oud billah » Hada. Et pour conclure, subhanallah, regardez comment est-ce que le fait de développer sa foi sur le destin nous fait comprendre la vie d'une autre façon. Une personne qui est atteinte d'une maladie, d'un cancer ou d'un problème grave, la personne peut faire une dépression. La personne perd tout espoir en la vie, perd le goût même de la vie. Et des gens peuvent même se suicider ou demander à être euthanasiés. Ce genre de choses. Maintenant, celui qui a la foi en Allah, on a expliqué ça, les 4 degrés d'acceptation des épreuves. Soit il s'en remet à Allah, il dit rien. Ou alors, il accepte l'épreuve, il ne se plaint pas. Ou alors, mieux encore, il accepte l'épreuve et, ça c'était le degré des sahaba, il remercie Allah qui lui a donné la possibilité de se rapprocher de lui par le biais de cette épreuve. Comment une personne qui n'a pas iman va être détruite par la même difficulté? Celui qui a développé, qui a iman et qui a développé la foi sur le destin, attention, il saura que ça c'est un cadeau d'Allah, de la part d'Allah, pour qu'il se rapproche de lui. Il y avait une femme qui était malade, très malade, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été voir le prophète et dit, « Oh prophète d'Allah, je ne sais plus c'était quoi son problème, est-ce qu'elle était aveugle ou autre chose, ça fait assez longtemps que j'ai lu ce hadith. » Il dit au prophète d'Allah, « Invoque ton Seigneur, demande à Allah de m'accorder la santé. » Le prophète dit que je peux le faire. Il a dit, « Mais si tu fais preuve de patience, sache que tu auras le Jannah. » Cette femme a dit, « Daska, ne demande pas. Je préfère souffrir, être patiente et avoir le Jannah. » Comment est-ce que quelqu'un peut penser comme ça? Donc, en face d'elle, il y a Nabiullah. Celui qui, s'il fait doua, son doua est accepté. Le prophète savait que s'il faisait doua pour cette femme aurait retrouvé la santé Kamila, Shifa Kamila, immédiatement. Mais le prophète dit que, si tu veux, je fais doua pour toi. Mais sache que si tu acceptes cette épreuve qu'Allah a envoyée, et que tu es patiente, en récompense, assurément tu as le Jannah. Cette femme, elle dit tout de suite, je vais vivre cette épreuve. J'accepte ce qu'Allah m'a envoyé, je vais être sabira, patience, et j'attends le Jannah qu'Allah m'a promis. Ça, c'était iman de sahaba. Mais on ne peut pas atteindre ce degré tant qu'on ne développe pas l'imanu bil qada'i wal qadr. Voici donc les 6 piliers de la foi. Et à la fin, l'ange Jibril, le bon prophète sallam, akhbirni an l'ihsan, informe-moi c'est quoi l'ihsan. L'ihsan, c'est le plus haut degré de foi. Il dit qu'an ta'boudallaha ka'annaka tarah, fa'il lam takun tarahu fa'innahu yarak. Adore Allah comme si tu le vois. Et si tu ne vois pas Allah, si tu n'arrives pas à ce degré où tu fais l'adoration d'Allah comme si tu es devant lui, tu es en train de l'observer, tu regardes Allah, sache que Allah Azza wa Jal te voit. Les, très rapidement, 2 minutes, l'ulama explique que le ihsan, c'est ihsan al-amal. Arriver à un degré où on est à la perfection de l'accomplissement des bonnes œuvres. Ce qui veut dire qu'on est arrivé à un degré de perfection de la foi, ce qui fait que les actions qui vont émaner de ce iman, ce sont des actions qui vont être faites de la façon la plus complète. Et le prophète alayhi salatu wassalam définit le ihsan de 2 façons. La première des façons, c'est la meilleure. La deuxième, elle est moins, je ne veux pas dire qu'elle est moins bien, mais c'est le degré en dessous, mais tout en étant parfait, c'est le degré en dessous, mais qui amène également le croyant vers l'excellence. On explique ça très rapidement. Le premier degré, c'est « adore Allah comme si tu le vois ». C'est-à-dire que quand une personne fait la salah, on gardera l'exemple de la salah pour ne pas faire trop long, la personne doit intégrer le fait qu'elle est devant Allah. Ce qui est le cas, quand on prie, on est devant Allah. Mais elle doit agir de telle façon, comme si que la personne, le croyant, est en train de voir son Seigneur. Et donc, ses actions vont être accomplies, cette dévotion, ce qui émane de ses actions, c'est l'amour pour Allah. Il le fait en contemplant son Seigneur, et il le fait avec amour et espoir en son Seigneur qui est en train de le regarder, et que lui, il a la possibilité de regarder Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le plus haut degré. Maintenant, la deuxième solution que le prophète alayhi salatu wa sallam explique par le biais de la définition, « فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ » Sache qu'il te voit. Les ulama disent que c'est une personne qui, lorsqu'il fait ses actes d'adoration, il est conscient qu'Allah est en train de l'observer. Et donc, on a parlé de la prière, mais c'est toute la vie du croyant, qu'on est conscient qu'Allah nous observe, et donc on ne se permet pas un écart de comportement, ni une parole déplacée, ni une mauvaise pensée, ni même une mauvaise intention de péché, parce qu'on sait Allah voit ce que nous faisons, Allah entend ce qu'on dit, et Allah sait ce qu'il y a de nos cœurs. Il dit qu'en finalité, celui qui fait l'adoration par amour pour Allah, il veut montrer à Allah sa dévotion, il dit c'est un degré supérieur, la phrase en arabe elle est belle, parce que, j'essaie de retrouver le passage, subhanallah, il a dit, et je trouve ça sublime. Ah, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Il y avait une phrase de conclusion qui expliquait bien que l'adoration d'Allah avec amour et contemplation est supérieure à l'adoration d'Allah avec, entre guillemets, une soumission avec la crainte. Parce que quand, c'est comme si on admire notre Seigneur, on essaie de se dépasser. On manifeste le maximum d'amour pour Allah, et ça c'est un degré encore plus fort. Mais pour atteindre le ihsan, pourquoi est-ce que l'ihsan a été cité après arkanul islam et après arkanul iman? Parce que c'est l'aboutissement du développement parfait des six piliers de la foi, six branches de la foi, des cinq piliers de l'islam, quand on l'a intégré parfaitement dans notre vie, c'est là qu'on va atteindre le degré de ihsan. Et les ulama disent, cette notion de voir Allah ou être conscient qu'Allah nous voit, ben, ça il faut essayer de le développer dans nos bonnes œuvres. Quand on jeûne, quand on fait la prière, quelle que soit la nature des bonnes actions, se projeter dans la situation où chacun sera un jour devant Allah. C'est quand on est jugé devant le tribunal d'Allah, Azza wa Jalla, le hissab. Enfin, ça me dit que de le hissab, Allah Rabbul Izzah appellera chaque personne par son nom, par le nom de ses parents, et se présentera devant Allah sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. Mais ça, c'est une situation que tout le monde va vivre. Nous allons tous le vivre un jour. Et c'est là le grand rendez-vous de notre vie. Il faut que nous nous préparions à ce rendez-vous pour que cette rencontre avec Allah se passe bien et qu'Allah soit satisfait de nous. Mais essayons de précipiter ce rendez-vous. Et faisons en sorte qu'à chaque salat, par exemple, on essaie d'intégrer. C'est comme si on était devant Allah Azza wa Jal en train de rendre des comptes, mais on va faire les actions de façon ostentatoire pour Allah. Pour Allah, oui. On va montrer, entre guillemets, Allah, tout notre amour, notre dévotion pour lui, la longueur de nos sijida, la profondeur de nos adhkar, la profondeur de notre Subhan Rabbi al-Azim, de notre Subhan Rabbi al-A'la. On montre à Allah comment on l'aime. On essaie de développer ça, et on va voir comment ça donne une autre dimension à nos bonnes œuvres, à l'accomplissement des bonnes actions. Et donc le degré de ihsan, c'est on pourrait dire c'est le synonyme de la taqwa, c'est l'accomplissement des bonnes actions avec l'intime conviction qu'on le fait pour Allah, et qu'on voit Allah et qu'Allah nous voit, mais également l'éloignement total des péchés, avec cette conviction qu'Allah nous voit, et qu'on ne peut pas se permettre de commettre délibérément un péché, alors qu'Allah, Rabbul Izzah, est à ce moment précis en train de nous observer, tout comme Allah observe l'ensemble de sa création, parce qu'Allah, il est As-Sami' et Al-Basir, celui qui entend tout, celui qui voit tout, et celui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ça, c'est notre objectif. Avant la mort, d'atteindre le degré de Ihsan qu'Allah nous l'accorde. Et ensuite, l'ange, enfin cet homme, demande Akhbirni ani sa'a, ça on va aller plus vite parce qu'il y a un programme spécifique là-dessus le mardi soir, donc on n'a pas besoin de développer ça. Il dit informe-moi du Qiyam, le Prophète dit que celui qui pose la question ne connaît pas mieux que celui à qui la question est destinée. Le Prophète connaît qui c'est qui est en face de lui. C'est l'ange Jibril, sous la forme d'un homme. Et il dit toi, Jibril, tu ne connais pas. Moi, Mohammed, je ne connais pas. Parce qu'Allah seul le sait. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. Les gens te posent des questions à propos de Qiyama. Dis que la science, la connaissance de Qiyama, c'est Allah seul qui le sait. Et là, l'ange, la personne demande فَأَخْبِرْنِ عَنْ أَمَارَاتِهَا. Donne-moi des informations concernant les signes. Et le Prophète n'a cité que deux signes. Un, quand la femme... Alors, parce que la traduction est un peu complexe, j'ai écrit au crayon, mais du coup, quand j'écris, je ne comprends pas. Quand la femme donne naissance à sa propre maîtresse, on va dire que c'est une expression arabe qui veut dire qu'une femme esclave va tellement s'émanciper jusqu'à devenir elle-même riche et elle devient elle-même propriétaire. Et le deuxième signe que le Prophète m'a dit, que tu vas voir, ça va dans le même sens. Tu vas voir des gens va-nu-pieds, des gens pauvres qui n'ont pas de chaussures et qui vont gagner et qui vont gagner de l'argent et qui vont monter des bâtiments, des gratte-ciels, mais qui vont yatata'awaluna fil bunyan, qui vont faire de grandes constructions, alors que c'est des gens, à la base, c'est des paysans, c'est des bergers, c'est des gens, des bédouins, des nomades qui n'ont strictement rien. Et en commentaire, les ulama disent que ces deux signes-là vont dans le même sens, c'est kathratul mal wa kathratul baraka. À la fin des temps, il y aura tellement de biens, tellement d'argent en profusion. Ça fait partie des signes que le prophète alayhi salatu wa salam a cités. Hada. Et après, et en petite parenthèse, parce qu'en revenant, Allah Rabbul Izzah nous a donné la possibilité également d'aller à Makkatul Mukarrama. Ça, c'est grand ni'ma de la part d'Allah. De passer quelques jours, très peu de jours, mais quelques jours auprès de Ka'batullah, la maison d'Allah, et une journée près de la masjid de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont là les plus grands cadeaux qu'Allah peut nous accorder. Et qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité à chaque personne ici présente d'aller vers sa maison Ka'batullah et d'aller visiter la masjid de notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et lui porter des salams. Et quand on passe dans ces régions du Moyen-Orient, on voit Dubaï par exemple, et quand il y a une expo dans l'aéroport même, on monte Dubaï il y a 60 ans, 50 ans, 40 ans, c'était le désert. Et certains savants disent, des contemporains, ils disent que c'est un exemple, c'est la concrétisation de ce que le prophète avait annoncé. Des bédouins, des gens qui avaient des chameaux et des moutons, basses. Et ils ont fait fortune, et maintenant, regardez, à quoi ressemble cette ville, l'image, la photo 60 ans avant, et maintenant, c'est plus que New York. C'est plus que ce que vous pouvez imaginer, des gratte-ciels, le luxe, et l'argent gogo partout. Et c'est tenu à la base par des gens dont les parents gardaient des chameaux. Et ils faisaient que le seul revenu, c'était traire les chamelles et vendre le lait, basse. Et voilà ce qui est devenu leur terre. Certains savants l'interprètent comme cela, que des gens pieds nus, qui n'ont rien du tout, ils vont monter des bâtiments. Ce qui ne veut pas dire que c'est un péché, mais c'est un signe de Qiyam, les biens qui vont venir à la fin des temps. Mais vous savez que quand les biens viennent à profusion, ce n'est pas un synonyme qu'Allah est content de nous. Non. C'est une grande épreuve. Maintenant, qui c'est qui tient ferme dans l'épreuve, qui est éprouvé par les biens et qui malgré ça reste dans l'obéissance, ça c'est une autre histoire. Et donc, le Prophète cite ces signes. Et enfin, lorsque la personne sort, dans la version que nous avons d'Ali al-Salihin, ça s'arrête là. Le Prophète dit, Atadri mani sa'il. Il demande ça, vous savez-vous qui était là? C'est qui cette personne qui pose des questions? Il dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète savent mieux. Il dit, fa'innahu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Il dit que c'était l'ange Gabriel, l'ange Jibril, qui est venu vous enseigner votre religion. Grande leçon d'humilité, importance de l'ilm, l'importance des assemblées religieuses, l'importance de faire le mudhakara, le rappel, de travailler à tout moment, jusqu'à la mort, on doit travailler les six piliers de la foi, et jusqu'à la mort, on doit travailler les six branches de la foi, et travailler les cinq piliers de l'islam, pour avancer, afin qu'on arrive à développer le ihsan au mieux, pour que lorsque nous rencontrons Allah, Rabbul Izzah, nous soyons au summum en termes de iman, de confiance en Allah, et en termes de pratique, d'accomplissement des obligations. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte que les paroles qui ont été dites, s'il y a eu des manquements, des erreurs dans l'explication de Hadith Jibril, qu'Allah nous pardonne, et tout ce qui a été dit de bien, qu'Allah illumine par cela nos cœurs et nous donne la possibilité de les intégrer dans notre vie et d'augmenter notre quota de foi, de bonnes actions, qu'Allah nous rapproche de lui et qu'Allah nous donne la possibilité d'être de meilleurs croyants jour après jour jusqu'à ce que nous retournions vers lui. Tawfiq illa billah. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a des fois je commence des phrases, je ne complète pas parce que c'est tellement beau, les paroles du Prophète sont tellement magnifiques qu'on s'emballe. Ce qu'on a vu, on revient avec la petite expérience, ce qu'on a vu avec nos frères et sœurs à Paris et à Lille également, avec le peu de moyens, subhanallah, ils se dépassent. Et on peut dire qu'ils ne nous atteignent pas à la cheville en termes d'infrastructure. Ce que nous avons, ils ne nous arrivent pas à la cheville. Eux, ils ne nous arrivent pas à la cheville. Mais en termes de motivation, en termes d'amour pour le din, en termes de talab, de rahba, d'envie d'apprendre et de pratiquer, de se rapprocher d'Allah, on n'arrive pas à leur cheville. On n'arrive pas à leur cheville, et ça je le dis clairement. J'ai assisté à un cours de mes collègues donc dans une madrasa qui s'appelle Nadoui. Il faisait très froid. Il fait 2 degrés. Froid insupportable, surtout pour nous. Il y a une salle de classe basse, remplie, 70 personnes, adultes. Les cours commencent à 19h. Ça se termine à, je ne sais pas si c'était 21h ou 22h. Tiens, c'est des gens qui travaillent. En plus, là-bas, c'est pas simple. Hein. Vous habitez un endroit à Paris, l'autre côté, c'est là-bas. C'est comme si vous faites Saint-Denis pour aller travailler Saint-Louis, Saint-Pierre. C'est terrible. Ils prennent le métro, bref, travaillent. En sortant, ils prennent le métro. Ils vont dans, je ne sais pas tel quartier, je ne sais même plus comment s'appelle l'endroit où ils habitent, où il y a la madrasa. Ils font une heure à peu près pour aller vers l'école. Et quand ils arrivent, ils sortent du travail, là. Nous, quand on sort du travail, qu'est-ce qu'on veut ? Rentrer à la maison, prendre une douche, s'asseoir devant la télé, manger, les doigts de pied en éventail et laisse-moi tranquille. Maille pas, pose pas question, ne veux pas voir personne, voilà. Je bois mon de l'eau coco devant télé, ou bien je mange mon sorbet et fous la paix parce que demain, parce que ma travail est dur, hein. Maman, il a travaillé dur, là, qu'elle là, transpire, là. Ok ? Et ça, qui savait payer l'électricité, là, moi, il paye. De l'eau, il coule, là. À moi, il paye. Ou ça, où habite, là, où marche. À moi, il paye. Fujida, à moi, il paye. C'est ça, notre conception des choses. Et demain, on va retravailler. On est comme des bêtes de somme. On travaille. C'est bien. C'est une obligation que d'apporter le risque halal, la subsistance licite. Mais quand est-ce qu'on travaille ce qu'il y a dedans ? Quand est-ce qu'on travaille notre iman ? Et c'est des gens qui, quand ils terminent le travail, ils vont apprendre 2 heures ou 3 heures et ils rentrent chez eux, ils quittent la madrasa, je ne sais pas, 21h, 22h, à quelle heure ils rentrent chez eux, à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils dorment, Mujahada, ajib. Et je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des gens qui étaient debout à l'extérieur, principalement des dames, debout. Il fait noir, il allait presque neiger, il faisait très froid. Je ne sais pas pourquoi ils restent dehors. Et nous, on nous a dit non, toi tu rentres. On est rentré. Je rentre, je vois une salle qui est remplie d'étudiants, plus de 70. Je dis, et des adultes, ce n'est pas des enfants, c'est des grands, c'est des. Subhanallah, des gens qui travaillent, mashallah. Et je me suis assis, j'ai écouté un petit peu, et enfin, là, j'ai compris pourquoi il y a des gens dehors. En fait, ils assistaient à un cours de fiqh, et quand le cours de fiqh est terminé, il y a un autre module qui commence. C'était le module de tafsir, et ce n'est pas les mêmes étudiants. Et comme tout le monde n'y rentre pas en même temps dans l'endroit, il faut qu'ils attendent sous le froid dehors. Et quand le module de fiqh est fini, eux, ils partent et ceux qui viennent apprendre tafsir, ils prennent le relais, ils apprennent. Ils donnent, subhanallah, leur temps pour apprendre le dîn. Vraiment, Allah, Rabbul Izzah, parfois choisit des gens. Quand nous, on montre qu'on a le ventre trop plein et qu'on a des savants, on a des masahif, des Qur'an, on a des madaris, on a tellement qu'on finit parfois par cracher sur eux. Tellement on a de savants, on a de founis, qu'à un moment donné, on ne leur donne même plus d'importance. Alors, si eux, ils avaient un ou deux, Masha'Allah, regardez comment ils en tirent profit. Il y a des fois, vous savez, quand on ne fait plus qadar, comme on dit, on ne comprend plus l'importance et les bienfaits qu'Allah nous a accordés, parfois Allah choisit d'autres personnes pour apprendre le khidmat du din. On doit faire bien attention. Qu'Allah nous protège de nous retirer les ni'mas qu'il nous a accordés, on doit s'accrocher, faire preuve de reconnaissance et se raccrocher encore plus au din et apprendre le ilm. Que nos cœurs soient attachés aux masajid, que nos cœurs soient attachés aux madaris, que nos cœurs soient attachés aux savants, qu'on essaie d'avancer dans le din et qu'Allah Azza wa Jal ouvre le taqdir de nos frères et sœurs en islam, de le monde entier, et qu'Allah nous garde sous sa protection. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.